Le monde des affaires et de la politique réunis pour le Forum économique mondial.
Le Forum de Davos a donc fermé ses portes hier. 2500 leaders politiques et économiques ont débattu des meilleurs moyens de relancer la croissance.
Money, power, cash, cash, party, cash. Evolution, revolution.
Et non, vous n'êtes pas au Forum économique mondial, mais en direct du Forum social mondial de Tunis. React, connect. Les Échos de Tunis, c'est une série d'émissions avec l'association ATTAC.
Bienvenue dans les Échos de Tunis 2015. Après les luttes et résistances au pouvoir des multinationales, intéressons-nous d'un peu plus près à l'un de ce que nous avons appelé leurs crimes. Vous êtes probablement familier de l'expression « accaparement des terres ». Mais pourriez-vous expliquer ce qu'est l'accaparement de l'eau ?
Accaparement de l'eau, eh bien, je pense aussitôt aux paysans du sud tunisien qui n'ont plus d'eau. Je pense à l'agricultrice de notre famille qui avait acheté sa parcelle à Gafsa pour cultiver ses oliviers et la nappe phréatique a baissé. Il faut creuser de plus en plus profond. La société de phosphate prend aussi beaucoup d'eau et bilan des courses, elle a vendu il y a un an sa parcelle. Voilà, c'est ma première idée.
C'est tout le débat évidemment de la privatisation, la question de la privatisation de l'eau par des grands groupes internationaux qui veulent s'accaparer la gestion de l'eau. Une deuxième interprétation que je ferai de ce sujet-là, c'est des conflits géostratégiques entre deux pays sur un fleuve, quand les ressources d'eau sont extrêmement vitales et rares et se trouvent à des frontières. C'est parfois un enjeu vraiment de lutte sanglante, hélas.
Vous êtes impliqué dans un événement qui a lieu ici qui s'appelle « Eau, planète et peuple 2 ». Qui porte sur la question évidemment de l'eau et du climat, de l'eau, de l'accès du droit à l'eau, de l'eau et de l'agriculture. Et voilà, donc forcément la question de l'accaparement de l'eau y a été abordée, même si malheureusement j'ai pas pu vraiment y participer parce que j'avais beaucoup d'autres contraintes, on va dire.
L'accaparement de l'eau donc me fait penser à l'agriculture d'agrobusiness, c'est-à-dire dont les petits paysans sont privés d'eau, dans la mesure où le forage, je donne l'exemple des oasis, le forage se fait donc d'une manière de plus en plus profonde et les petits agriculteurs n'arrivent pas dans la mesure où on n'a pas les moyens et ce sont les grosses entreprises qui le font. Voilà.
Bon, d'accord, on est quand même tombé sur des spécialistes. Cela ne nous empêche toutefois pas de donner la parole à des habitués de la lutte et du discours. Car le principe de ces luttes est d'être local. Mais rappelez-vous, le FSM est l'endroit idéal pour converger et faire tenir ensemble toutes ces résistances éparpillées sur le globe. Et la convergence, elle passe par des militants et militantes. Commençons par Luca Raineri, responsable plaidoyer de COSPE, une ONG présente dans une trentaine de pays. Pour cette ONG, développement et droits de l'homme sont deux choses étroitement liées et la distinction entre le Nord et le Sud est dépassée. C'est dans cet esprit de rassemblement des luttes que l'association mène la campagne contre l'accaparement de l'eau. Cette campagne vise à mettre ce problème, qui existe partout et sous différentes formes, sur l'agenda des décideurs.
Alors, quelles sont les principales causes de l'accaparement de l'eau ?
Voilà, l'accaparement de l'eau est un phénomène qui est très complexe. Si vous allez demain sur Google et vous tapez « accaparement de l'eau », il y a vraiment pas grand-chose qui ressort, alors que malheureusement est un phénomène qui est très 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 répandu, parce qu'on part d'accaparement de l'eau à chaque fois que l'eau en tant que bien commun est transformée en facteur de profit sans aucun type de compensation, de consultation et de participation des communautés qui sont affectées. Dans ce sens, il y a accaparement de l'eau, par exemple, dans toutes les formes d'agriculture non durable qui consomment jusqu'à 12 fois plus d'eau que l'agriculture de petite ou moyenne taille de petits paysans, et qui est toujours tourné vers l'exportation. Il y a aussi de l'accaparement de l'eau à chaque fois que l'eau est polluée sans aucun type d'amende, sans aucun type de contrôle par des industries ou des industries extractives ou minières. Mais encore une fois, l'eau est transformée en une déchetterie à ciel ouvert de façon complètement gratuite dont les entreprises et les gouvernements peuvent abuser librement, alors que les communautés dont la survie était basée sur l'accès à cette eau-là, sur la gestion de cette eau-là, est directement menacée. D'autres formes d'accaparement de l'eau concernent par exemple la militarisation de l'eau. C'est un phénomène qui est aussi très répandu. On connaît bien les cas de la Palestine, mais ce n'est pas que ça. On se souvient du fait que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, avait dit « l'eau, ça va être l'or du XXIe siècle ». Beaucoup d'États l'ont écouté, ont commencé à militariser l'eau, tout aussi comme on avait et on a toujours militarisé le pétrole, l'accès au pétrole et les pays pétroliers. Une autre forme d'accaparement de l'eau est aussi la privatisation de l'eau. C'est quelque chose à laquelle on assiste dans beaucoup de pays, dont la première étape est toujours la coupure entre le secteur de l'eau urbain et le secteur de l'eau rural. Le secteur urbain est souvent laissé aux entreprises privées parce qu'on considère que c'est le plus rentable. Il est important de remarquer que le secteur public n'est pas toujours forcément la réponse. L'eau en tant que bien commun ne veut pas dire l'eau en tant que bien public. Très souvent, le public est aussi un acteur d'accaparement de l'eau, dans la mesure où, par exemple, ceux qui se comportent de la façon qui vient d'être décrite, à savoir qu'ils s'approvisionnent d'eau parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers d'accéder à l'eau qui est devenue un bien rare et du coup un bien très précieux, sont mis en prison par les autorités publiques à cause du vol au détriment de l'État, de la propriété étatique. Donc on considère qu'il faut bien être clair, ce n'est pas la lutte pour la propriété publique contre la propriété privée, c'est la lutte pour un droit humain, donc pour un accès à l'eau en tant que bien commun.
Est-ce que vous arrivez bien à fédérer autour d'un récit commun toutes ces luttes locales? C'est quelque chose dont vous êtes plutôt satisfait?
Les mouvements qui luttent pour l'eau, pour le droit à l'eau et pour l'accès à l'eau, ne se reconnaissent pas forcément dans la même narrative. Ce sont des acteurs qui ont un commun, un fil commun qui est celui de l'eau, de l'accès à l'eau, mais qui ne se reconnaissent pas forcément en tant qu'acteurs pour le droit à l'eau, pour l'accès à l'eau. Donc on considère que ce concept, si vous voulez, d'accaparement de l'eau est quelque chose qui peut être très fédérateur.
Donc un moyen d'arriver à ça, ce serait de faire reconnaître un droit à l'eau?
Un moyen d'arriver à ça, ce serait de se reconnaître dans la lutte pour le droit à l'eau. Malheureusement, à ce jour, les conventions existantes des droits de l'homme ne mentionnent pas explicitement le droit humain à l'eau, mais cela ne suffit pas, parce qu'une fois qu'on dit « on a le droit à l'eau », la question se pose de savoir qui va fournir l'eau à laquelle on a le droit. Et les entreprises multinationales sont très bien positionnées pour dire « nous avons l'expertise, nous avons les moyens, nous avons le savoir-faire pour fournir cette eau-là ».
Et si l'eau était reconnue comme un commun et non pas comme un bien public, qu'est-ce que ça impliquerait dans sa gestion?
Ça implique le droit à la participation dans la gestion de l'eau, ce qui n'est pas la moindre des choses. Ça veut dire aussi laisser le plus d'espace possible aux communautés et aux systèmes de gestion communautaire de l'eau qui sont très pertinents et qui marchent très bien.
Vous allez bientôt lancer un site internet, est-ce que vous pourriez m'en dire plus?
Un site internet qui s'appelle watergrabbing.net. L'idée nous est venue exactement en prenant l'exemple de ce qui s'est fait avec le site internet lancé par l'ONG Grain concernant l'accaparement des terres. Ce que l'on essaye de faire avec le site watergrabbing.net, c'est exactement la même chose en ce qui concerne les cas d'accaparement de l'eau. On commence à recenser les cas d'accaparement de l'eau, on en a déjà des centaines dans ce site, pour d'abord permettre à tous les acteurs qui luttent contre l'accaparement de l'eau de se reconnaître dans la dynamique pour le droit à l'eau, mais aussi de donner de la visibilité à ces luttes.
Autour maintenant de Chantal Jacovetti, membre de la Via Campesina et de la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, à l'origine de la convergence malienne contre les accaparements de terres. Elle évoque le processus de convergence mondiale des luttes. Le message « Cessons de nous diviser, en particulier entre les luttes de la terre et de l'eau », unissons-nous.
Et ce qui va nous unir dans cette lutte, c'est d'abord de soutenir et de dénoncer la criminalisation des militants et des militantes qui luttent sur la terre et de l'eau, d'autant plus qu'il y a un rapport de l'Observatoire des droits humains qui sortit en novembre 2014 qui cible spécifiquement que toutes les personnes qui ont été poursuivies, emprisonnées, et malheureusement aussi il y en a plein qui meurent, sont les personnes, les militants, les militantes ou ceux qui encadrent, qui soutiennent les militants et les militantes qui sont en lutte contre la terre et l'eau. Et pourquoi ? Parce qu'on s'attaque au système. C'est-à-dire qu'on est en train de défendre un système capitaliste contre un système, j'allais dire, le système du droit des peuples à gérer les ressources, la terre et l'eau. Et ce combat est primordial. On sait qu'en ce moment, l'actualité, c'est sur le changement climatique. Mais comment on va le changer si toutes les terres et l'eau sont accaparées par les multinationales ou par les gouvernements qui le cèdent ou par une certaine élite?
Oui, on va s'attacher plutôt à l'eau aujourd'hui. Ah. Alors, quelles sont les grandes causes de l'accaparement de l'eau?
Vous voulez me faire parler de l'accaparement de l'eau, mais l'accaparement de l'eau est lié à l'accaparement de la terre. Ou inversement, l'accaparement de la terre est lié à l'accaparement de l'eau. Tous les grands projets d'investissement, le G8, etc., ils ne vont pas le faire à les endroits s'il n'y a pas la terre et l'eau associées. Ça commence les grands barrages, on fait le barrage sur la terre, mais c'est des millions ou des milliers d'hectares de terres et de bonnes terres agricoles qui sont accaparées. Et aujourd'hui, les investisseurs savent très bien qu'ils peuvent s'accaparer des terres parce qu'il y a l'eau dessus et qu'ils ne vont pas faire ailleurs que où il y a de la terre et de l'eau, évidemment, sauf si c'est des mines ou alors des autres ressources naturelles. On est bien d'accord là-dessus, si c'est du pétrole ou des mines, etc. Mais dans le cadre de l'accaparement de l'eau, il y a l'accaparement de l'eau dans le milieu agricole, il y a aussi le choix de l'agriculture. Quand on s'accapare de terre pour faire des cultures d'exportation, on s'accapare de l'eau. Et il y a aussi une autre forme d'accaparement d'eau, c'est tout la privatisation de l'eau qui se passe dans les villes, qui n'est pas encore palpable en tout cas dans les pays, par exemple africains, qui n'est pas encore palpable dans les campagnes ou dans les brousses. Mais ce processus-là est en cours.
Est-ce qu'il y a une lutte pour la réappropriation des ressources qui vous tient à cœur, soit parce qu'elle est emblématique ou parce qu'elle est un succès?
La lutte emblématique, c'est d'abord de soutenir les militants qui sont pourchassés et harcelés ou emprisonnés. Et le deuxième message, c'est que tant que tous ensemble, les urbains, les ruraux, quels que soient les objectifs qu'on veut, si on veut vivre dans la paix, il faut récupérer notre terre et notre eau pour pouvoir la gérer par les communautés dans le sens large. C'est la communauté urbaine, c'est la communauté rurale.
Alors vous parlez des ruraux et des urbains. Est-ce que vous parvenez par ailleurs à rassembler autour d'un même récit mouvement du Nord et mouvement du Sud?
Ce que nous avons réussi dans la déclaration, nous avons commencé une déclaration des droits sur la terre et l'eau à Dakar en octobre 2014, au Forum social de Dakar, où il y avait les urbains, où il y avait les ruraux, et où il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements de base et des organisations paysannes.
Alors, de votre expérience, est-ce que la nationalisation d'une ressource est une bonne solution?
C'est un peu une question piège. On pourrait dire dans l'absolu, on dirait oui, mais aujourd'hui, l'accaparement de l'eau et de terre est fait en complicité avec les gouvernements. Donc nous, on est vraiment dans le message, redonnons le pouvoir ou reprenons nos droits sur les territoires, sur la terre et l'eau.
Alors, lors de l'atelier a été évoqué le droit à l'eau. Le droit à la terre a déjà été reconnu. Quel bilan on peut faire déjà de l'application de ce droit? Et est-ce que le droit à l'eau serait complémentaire?
Les droits à la terre ou les droits à l'eau, dans tous les cas, ils rentrent dans le canevas des droits humains. Le droit à la terre a été reconnu, mais il n'est pas juridiquement reconnu. Il est moralement reconnu par les institutions, comme le droit à l'eau est moralement reconnu. Et aujourd'hui, on est en train de se battre. Nous nous sommes beaucoup investis dans un outil qui s'appelle les directives, qui a été discuté à la FAO, les directives de la terre, de la pêche et des forêts. Et justement, il y avait eu un premier combat. Ils ont voulu dissocier la terre et l'eau, mais nous allons reprendre ce combat-là parce que c'est un combat de territoire, parce qu'on ne peut pas dissocier les droits de la terre et les droits de l'eau. Donc, ces droits-là sont partout implicitement reconnus, mais il n'y a pas encore vraiment d'outils juridiques pour les faire appliquer.
Dans d'autres ateliers ont été évoqués les crimes des multinationales. Est-ce que l'accaparement des terres et de l'eau, ça rentre dans ce cadre?
Bien sûr. Les militants qui sont emprisonnés par cela. Par soit les multinationales, soit les gouvernants qui sont complices de ces multinationales.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse, et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey!
On finit sur une note très locale avec Irène Carpentier, doctorante en géographie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et doctorante associée à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, basé à Tunis depuis septembre 2011. Sa thèse porte sur les différentes formes de valorisation des oasis du sud tunisien, en particulier sur celles de Gabès et de Tozeur.
Alors, l'accaparement de l'eau, il est souvent lié à l'accaparement des terres. Mais il est aussi en fait un accaparement économique généralement, c'est-à-dire que l'accaparement de l'eau, il se fait, c'est-à-dire que il est intégré dans les processus de mondialisation avec la mise en compétition. En fait, c'est exactement comme l'accaparement des terres, c'est la mise en compétition des territoires qui fait que l'objectif c'est de valoriser les territoires les plus compétitifs.
Et sur ton terrain, il se manifeste, cet accaparement, comment se manifeste-t-il?
Alors sur le terrain des oasis, l'accaparement foncier est en fait assez limité puisque en fait il y a des règles de transmission des terres par l'héritage et comme il y a une forte dimension en fait identitaire dans les oasis, il y a peu de gens qui vendent leurs terres, donc ça reste des propriétés familiales, donc il y a peu de constitution de grandes terres, c'est-à-dire que l'État n'a pas racheté les terres nominales ou il n'y a pas eu de processus d'accaparement réel, mais on trouve dans d'autres régions, à l'époque coloniale, des terres qui avaient été colonisées, qui sont aujourd'hui rachetés par des grands exploitants qui se constituent des immenses exploitations à destination des marchés d'exportation, les marchés européens en particulier, mais aussi des nouveaux marchés des pays du Golfe. C'est une question de disparité sociale. En fait, toutes ces questions d'accaparement, c'est des questions de justice sociale. Comme l'ont dit plusieurs chercheurs tunisiens et français, les causes de la révolution en Tunisie, elles sont des causes. Elles sont issues des régions rurales et c'est aussi les modèles de développement, le modèle d'accès aux ressources en terre et en eau, qui sont les principales causes de ces mouvements. Donc, c'est un des leviers vraiment très importants d'une frustration de certaines générations, d'un levier de contestation sociale. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont très sensibles et qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été dans l'agenda prioritaire des politiques tunisiennes, mais c'est susceptible de revenir en force, on va dire, car c'est un levier de développement important et un levier de mise en valeur des territoires.
Ta problématique, elle est plus liée à l'agriculture, mais est-ce que tu as des exemples d'accaparement de l'eau qui seraient liés à des pollutions dues à l'industrie minière aussi?
Alors oui, justement, parce que je travaille en particulier sur la question de l'agriculture, mais de fait, les espaces oasiens sont des espaces multifonctionnels et qui ont de tout temps eu une activité diversifiée. Et alors l'exemple de Gabès est en plus particulièrement intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est l'implantation de l'industrie chimique, donc un pôle de transformation du phosphate pour la création d'engrais, qui a bouleversé en fait tout le système régional, le système économique et le système environnemental en fait, avec une exploitation minière de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a eu la création de forages et qui ont surexploité les nappes et donc on est désormais sur des nappes fossiles. Il y a une concurrence en fait entre les activités, qui est une concurrence qui est de fait pas, c'est pas une concurrence loyale, on va dire, dans la mesure où le groupe chimique tunisien, d'après certains chiffres, représente près de 6% du PIB de la Tunisie, donc c'est un monstre, on va dire, économique contre laquelle l'agriculture oasienne peut absolument pas lutter. Et enfin, c'est la même configuration à Tozeur avec l'industrie touristique, c'est-à-dire que le tourisme de masse à un certain moment représente une manne financière qui ne pouvait pas être contre laquelle la petite agriculture familiale peut pas lutter. Surtout que, bon, en particulier l'industrie, c'est-à-dire que l'industrie minière, elle produit immédiatement des devises à l'étranger. C'est pour ça que l'agriculture d'exportation est systématiquement favorisée par les politiques tunisiens. Et on le retrouve au Cap-Bon parce que l'exportation, voilà, ça fait des devises directement au niveau national. On est dans une démarche de développement national. Donc, il y a une. En fait, c'est une question de mise en compétition. compétition et de mise en concurrence. Et il y a l'activité, on va dire, agricole, familiale, plus réactive, centrée plus sur des questions d'autoconsommation, de circuits courts, ne peut pas du tout lutter sur le plan économique.
C'est la pire des relations Nord-Sud parce que les touristes... bon, il y en a qui viennent du Sud, évidemment, mais c'est aussi... on se retrouve là aussi dans un mécanisme de domination.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a au départ eu la volonté de recréer... pour ce qui est de la dynamique touristique, et en particulier dans les oasis, recréer un paysage un peu... recréer un paysage fantasmé à destination de touristes occidentaux essentiellement. Mais après, je crois que c'est de toute manière une dynamique qui est plus globale. Ça se pose pas vraiment en ces termes-là. C'est-à-dire que c'est plutôt en termes de choix économique. C'est-à-dire que si on choisit le tourisme, de fait, on choisit une valorisation qui recrée un rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force entre le touriste et l'acteur local, on va dire.
C'était l'accaparement de l'eau, suite et fin de la série sur les convergences au Forum social mondial de Tunis.
C'était Les Échos de Tunis, en direct du Forum social mondial de Tunis, avec l'association ATTAC. À bientôt.
Où on dit non au capital quand il dit la bourse sous la vie. Au multinational, on a le choix, on a des avis. Ils mondialisent le profit, mondialisent les bénéfices au détriment des faibles. Pour le sud et tous ses fils, un autre monde est possible sans la dette et tous ses vices. Les supplices, sacrifices qui nous confinent dans la crise. Un autre monde est possible sans les barricades de Davos. Porto Alegre, on est la preuve, dis-le à tous nos gosses.